sur Canal Sud, sur Les Petits Papiers, tout de suite. Donc, on retrouve Marielle. Bonjour à toi.
Bonjour.
Ça fait... Alors, d'un seul coup, j'ai eu un doute sur ton nom de famille. C'est Duclos.
C'est ça.
J'ai pas dit de bêtises.
Non, c'est tout à fait ça.
C'est bien. Donc, et tu es, entre autres choses, réalisatrice de ce film qui s'appelle « Dans le cœur des vivants ». Donc, qui va passer demain à France 3 Occitanie vers 23h et puis également une soirée à Cinémathèque. On va parler de tout ça et de tout ton parcours avec Goutte de Vie pour aboutir à ce film, hein, sacré parcours. Mm-hmm. Voilà, à tes côtés, il y a Thierry Marmet. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors, bonjour, je vais régler le micro, voilà, comme ça on est bien. Tu es membre de Goutte de Vie, plus spécifiquement, tu fais partie donc des trois secrétaires du bureau.
Absolument.
Voilà, c'est un choix comme ça d'avoir trois secrétaires et pas de chef.
C'est un choix qui a été porté dès le début de l'association, parce qu'on voulait faire simple et dans le plus de liens possible.
Alors toi-même, tu es à l'association depuis le tout début de Goutte de Vie.
Pratiquement depuis le tout début. Donc moi je suis médecin, j'ai beaucoup travaillé dans le champ des soins palliatifs. Et lorsque les fondateurs de l'association sont venus me rencontrer pour me parler de leur projet, j'ai trouvé ce projet remarquable et je m'y suis aussitôt investi.
Parce que donc, alors maintenant, pour celles et ceux qui nous écoutent, coucou tout le monde, voilà, vous êtes bien sur Canal Sud, sur Les Petits Papiers, et on parle de Goutte de Vie. Alors, Goutte de Vie, donc il y a de ça une dizaine d'années, on avait fait une très chouette émission, donc avec Yves Sévène, qui est à l'origine aussi de ce projet. Et maintenant, si tu veux bien, Thierry, nous redire, Goutte de Vie, c'est quoi ?
Alors, donc, Goutte de Vie, c'est une association dont le nom s'est un petit peu allongé, puisque notre préoccupation, c'est prendre soin de la vie et accompagner la mort. Et plus spécifiquement, de ceux qui ont eu l'expérience de la vie à la rue, soit par choix, soit parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement, mais aussi des personnes qui peuvent se retrouver isolées, sans famille, tous ceux qui sont un petit peu abandonnés hein, et perdus de vue par notre société. Finalement, au départ de Goutte de Vie, il y avait eu la mort à la rue d'une personne un petit peu emblématique. Et ses copains de la rue, les travailleurs sociaux qui le connaissaient bien, et pas mal de personnes qui l'avaient croisé parce qu'il était en même temps très très militant, avaient trouvé indécent qu'il puisse se retrouver au cimetière dans l'indifférence la plus totale. Et c'est ce qui a motivé la création de l'association.
Oui, c'est ça. Donc, comme tu dis, l'indifférence la plus totale, c'est arrivé plus d'une fois. Et j'avais aussi entendu à l'époque, Yves Sévène avait dit aussi la puissante souffrance des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, qui se trouvent en fait démunis, quoi, et qui vont accompagner un être humain donc jusqu'à un enterrement, mais sans parfois même le connaître. C'est vraiment, ça peut générer une dépression, ça.
C'est une confrontation permanente, hein, être auprès de ceux qui sont à la rue, qui vieillissent, qui ont des problèmes de santé. C'est une confrontation permanente à de l'impuissance et se retrouver régulièrement en situation, pas trop savoir quoi faire, pas trop savoir quoi dire. Ce qui du reste est une définition de la souffrance, autant dire qu'on a là le matériel qui fait toute la difficulté d'être à leur côté, souvent un peu seul. Et du reste, Goutte de Vie s'est préoccupé de ça. Et parmi nous, il y a quelques bénévoles qui, après un décès un peu brutal, un peu violent, nous préoccupons d'apporter un soutien à ceux qui, sur le terrain, étaient à leur côté, les accompagner, en faisant des débriefings, en faisant des groupes de parole pour les aider face à la souffrance qu'ils ont pu accumuler et à la perte de cette personne sur laquelle ils avaient beaucoup investi émotionnellement, amicalement et dans tout ce qui nous émeut, en quelque sorte.
Donc ça, donc pour les gens qui, voilà, qui sont les bénévoles. Et après, il y a aussi toute cette histoire aussi de prendre soin des personnes qui sont les copains, les copines, quoi, qui restent là.
Alors, à la rue, ça, fois. C'est la deuxième grande difficulté. En ce sens que toutes les traces que l'on a et qui viennent maintenant de loin laissent à penser que l'homme s'est toujours préoccupé d'être présent auprès de ceux qui meurent et d'organiser des rituels là autour. On a une tombe datant de moins 120 000 ans en Israël, notre cousin de Néandertal, qui montre que les corps étaient orientés d'une certaine façon, il y avait des traces d'objets, il y avait des traces de végétaux. Plus récemment, on vient de trouver la tombe d'un enfant, où là encore, il y avait un rituel qui montrait combien il avait fallu porter cet enfant, et il était dans une espèce de hamac fait avec des perles, ça date de 10 000 ans. Wow. Donc, tout au long de notre histoire d'humain, cette préoccupation, elle est là, elle génère du rituel, elle génère des réactions entre groupes. Et à la fin du XXe siècle, assez brutalement, quand on va partir de nos milieux ruraux habituels pour trouver du travail en ville, une grande partie de ce savoir-faire va se perdre. Et moi, jeune médecin, je serais surpris de voir arriver des familles qui disent « Mais docteur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» Alors que moi, j'appartenais à une culture où on savait ce qu'il y avait à faire, hein, en matière d'organisation, etc. Et les historiens ont parlé de période de la mort escamotée. On n'en parlait plus aux enfants. Les cérémonies, c'était en famille, quand il y en avait une. Et ça faisait difficulté parce que c'est un moment du travail de deuil aussi que d'avoir ce temps collectif autour de celui qui s'en va. Et dès le début du XXIe siècle, les entreprises de pompes funèbres nous ont dit qu'ils étaient sollicités pour donner du sens à ce moment-là. Hein, et c'est à ce moment-là que Goutte de Vie a vu le jour. Et pour moi, symboliquement, ce qu'a fait Goutte de Vie pour donner du sens à la séparation avec des personnes auxquelles, a priori, personne ne s'intéressait, laissait beaucoup d'indifférence, je trouve ça superbe dans le côté spectaculaire et provocant que cela a, pour dire que, voilà, il faut être présent, hein, à tous ceux qui font le passage, et en particulier ceux qui le font avec plus de difficultés que les autres.
Je pense que pour illustrer tout ce que tu dis, je vous propose un petit extrait sonore du film documentaire de Marielle. Donc, on se retrouve dans 55 secondes.
Mon frère est décédé il y a 4 ans à Toulouse. J'ai appris qu'il avait été enterré par Goutte de Vie un an après la cérémonie. J'avais coupé le contact avec ma famille pendant 2 ans et je l'ai su parce que j'ai rebranché Facebook. C'est mon père qui me l'a dit. C'est fou, Bernard Tou n'a pas réussi à faire le lien entre mon frère et moi, car nous n'avions pas le même nom de famille. Il a cherché à me retrouver, mais il n'a pas réussi. Pourtant, à ce moment-là, j'étais déjà dans la chorale. Faut prendre soin des choses et des personnes, même si elles sont parties. C'est très important d'aller mettre les tombes en ordre, de les nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes. Sinon, ça serait comme mettre quelqu'un dans un trou et l'oublier.
Voilà cet extrait de film « Dans le cœur des vivants ». Peut-être Marielle, si tu veux nous raconter comment ça a été pris, ce son-là.
Alors, donc là, c'est un monsieur qui fait partie de la chorale Coquelicot, qui a accepté de témoigner de son histoire et de la façon dont il a appris que son frère avait été accompagné par Goutte de Vie. Et ce que ça met en évidence, c'est aussi la difficulté, en fait, pour les gens qui travaillent dans l'association de réussir, en fait, à retrouver les proches. Et ça, c'est un travail qui demande énormément de temps. Et alors, parfois et souvent, ils réussissent, mais il y a aussi des échecs. Et donc, voilà, ça apprend aussi une forme d'humilité, parce que malgré toute la bonne volonté, il y a des moments où les ruptures familiales sont telles que c'est difficile, en fait, de rassembler toutes les personnes qui auraient dû ou pu être là pour la cérémonie.
Donc c'est assez douloureux, ça, si j'ai bien compris. Oui, Thierry.
Marielle vient d'introduire la chorale Coquelicot. Peut-être faut-il la présenter. Cette chorale, dorénavant, occupe une place très significative dans l'organisation des funérailles que propose Goutte de Vie. deux personnes qui étaient venues à une cérémonie pour un ami qui avait l'expérience de la rue, avaient trouvé que ce moment-là, même s'il y avait un effort de présence, même s'il y avait du lien, était un peu triste. Et c'est eux, un petit peu, qui ont lancé l'idée de faire une chorale. Et autour de cette chorale, se sont agrégés des personnes ayant l'expérience de la rue, des bénévoles, des travailleurs sociaux. Et dorénavant, à la fin de chaque cérémonie, il y a un choix de chansons qui est fait et qui sont chantées pour celui qui est parti.
Mais c'est magnifique, il me donne vraiment, il me tend la perche pour l'extrait suivant que j'ai choisi de ton film, Marielle. Hein, c'est parfait. Là, c'est trois petites minutes. Allez, on se retrouve.
Ok. Encore une fois.
Moi, sincèrement, la chorale, c'est comme ma famille. Et je serai toujours avec eux, là où ils vont. Moi j'ai dormi sur le banc, à la gare, même à la Dorate, là, sur le gazon, là. J'ai passé des nuits. Non, c'est la galère. Je sais ce que je deviendrai si je reste dans la rue. Donc alors j'ai cherché. Après, j'ai trouvé des amis qui m'hébergent. Depuis que j'étais avec Coquelicot, j'ai pas raté aucun obsèque. Ça me fait plaisir d'y aller, d'assister. C'est parce que je sais qu'ils ont personne. Parce que s'il y a personne, ça veut dire que tout le monde les ignore. Mais le fait qu'il y a des gens qui aient à leur obsèque, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui les respectent. Donc moi, je suis parmi les gens qui les respectent. C'est un devoir à faire. Voilà, ça vient du cœur. Enfin, je me mets à leur place. Un jour, c'était moi. Un jour, c'était l'autre. Donc on a tous besoin l'un de l'autre. Ah oui. يوسان إذا دقران إذا لانو إذا كنسان زكني أم ثرقي ثرحا عدان على الخيال غد جان أي شرحول ميديم مكتين
Voilà cet extrait du film Dans le cœur des vivants. Peut-être Marielle, si tu veux nous raconter. Il y a deux séquences. Hein, donc la séquence avec la chorale où on voit tous ces gens et c'est vraiment très touchant déjà. Et puis après, il y a ce monsieur. Donc. Si tu veux nous décrypter ça, si tu as envie.
Bah, tout à fait. La chorale à Coquelicot, bon, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire ce film, en fait, la première fois, j'ai été les rencontrer. Je leur ai expliqué un petit peu mon projet et ils m'ont très bien reçu et ils m'ont dit, bon, bah, écoute, maintenant, t'es là, tu restes là, tu prends un carnet de chant et puis tu chantes avec nous, quoi. Et donc, pardon. Et donc voilà, en fait, j'ai été intégrée à la chorale. Voilà. Et donc c'est vrai que ce sont des moments qui sont très très forts parce que voilà, il y a un partage en fait autour du chant. Et c'est une opportunité, une chance en fait aussi de pouvoir côtoyer des gens qui, voilà, qui sont d'autres milieux sociaux, qui ont vécu d'autres parcours de vie et avec lesquels on a vraiment une occasion de créer des liens d'amitié autour du chant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et donc, le monsieur qui témoigne, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître. Et d'une façon très, très simple, en fait, il exprime tout le projet de Goutte de Vie et des accompagnements aussi auxquels participe Coquelicot. Donc voilà, je trouve que c'est très joliment dit. Après, là, on n'a pas la traduction de son chant, mais voilà, c'est un chant qui est assez nostalgique et qui raconte aussi la perte des êtres chers. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est un très beau témoignage qui dit tout en peu de mots. Quoi. Voilà.
Alors, on peut quand même aussi dire aux auditrices, aux auditeurs, que ce film qui va passer, on le rappelle, demain, jeudi 27 octobre, sur France 3 Occitanie, ce sera à 23h hein, que ça va passer, et qu'ensuite ce sera en replay aussi. Et ce film, donc, quand il y a ce chant de ce monsieur, il y a eu l'effort de faire le sous-titre.
Et c'est ça, et c'est très chouette. On pourra lire les sous-titres. Hein, voilà. Donc ça apporte aussi une autre dimension. Voilà, au propos, d'une façon peut-être un sens assez sensible aussi. Et voilà, les chansons disent beaucoup de choses, en fait. Même les choix aussi des chants qui sont chantés dans la chorale, voilà, ils ont été pensés aussi pour raconter aussi quelque chose de certaines difficultés qui peuvent être traversées aussi dans la vie. Donc voilà, et il y a des chants voilà, qui sont un peu plus appropriés aussi pour les obsèques. Voilà. Et on essaye, voilà, quand il y a les obsèques, en fait, les maîtres de cérémonie de Goutte de Vie, quand ils essaient d'organiser les obsèques, ils discutent avec le chef de chœur de la chorale pour essayer de trouver dans le répertoire des chants qui peuvent correspondre le plus possible à la personne qui est décédée.
D'accord. Oui, Thierry.
Peut-être faut-il aussi préciser que donc l'association d'abord est laïque. Ça n'exclut pas que si la personne qui est décédée avait des croyances et avait émis le souhait d'une cérémonie religieuse, ce soit pris en compte. Mais c'est pas si souvent que ça le cas. Et outre le choix des chansons, il y a aussi des choix de textes hein, qui vont être lus par les participants qui le veulent bien, par les copains. Il y a tous les cas de figure qui sont possibles. Et puis surtout, il y a aussi ce petit temps symbolique, parfois. Goutte de Vie tire son nom du fait que lorsque quelqu'un décède à la rue, les copains se réunissent, ils ouvrent une bouteille et les premières gouttes du contenu de la bouteille sont versées dans la rue en souvenir de lui. Alors il arrive que parfois, cette ouverture de de bouteille se fasse au moment des funérailles avec quelques gouttes qui vont être mises sur le cercueil avec toute la symbolique que cela recouvre pour eux.
Oui, oui, c'est vrai que c'est assez régulier. Je me rappelle en tout cas d'avoir assisté à des obsèques et effectivement, la 8-6, elle est vidée en partie à l'intérieur. Donc la bière, la grosse bière, c'est vrai qu'elle est souvent vidée en partie dans le trou où va reposer la personne morte. Oui, ouais, c'est assez fort. Ouais. Goutte de Vie, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Je crois que je n'avais pas du tout intégré au démarrage que c'était... Le coup converse, là, donc, d'accord, ok. C'est très chouette, ça. Et autre question aussi, comme tu le rappelles bien, c'est une association laïque. L'idée, c'est de respecter toute et chaque personne, quelle que soit son histoire. C'est quand même aussi très chouette de se dire, voilà, il y a zéro... Enfin, est-ce que vraiment, c'est que ça arrive à zéro jugement?
Ça serait prétentieux de dire que on arrive à zéro jugement dès lors que... Notre inconscient, la première chose qu'il fait, c'est quand même de chercher à savoir en quoi celui-là, il me ressemble ou il est différent de moi. Donc le jugement peut assez vite dériver de la situation qu'on observe à la personne. Donc ça demande un effort et c'est une valeur forte portée par l'association que nous devons un respect à toute personne, quelle que soit son altérité, parce que c'est au fondement de sa dignité. Et la dignité, pour nous, le respect de la dignité, c'est dans son sens absolu, hein, celui qui lui a été donné par les philosophes de l'époque des Lumières. Et c'est ça qui est un des repères forts, hein, pour les membres de l'association.
Alors, il faudrait qu'on fasse une émission sur ce que de la définition de l'époque des Lumières. Mais tu reviens en deuxième séance.
C'était les philosophes au moment de la Révolution, quand ils ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
d'accord,
où nous naissons tous égaux en droit et en dignité.
Alors, c'est un grand, grand principe qui n'est pas toujours respecté, on le sait bien. Mmh. Du coup, pour revenir toujours au film, si tu veux aussi, donc ce film qui est diffusé demain, et au fait, si on le loupe demain, jeudi 27 à 23h, le replay va durer combien de temps, tu sais?
Je ne sais pas exactement, mais je pense un mois.
Un mois, tu ça penses, ouais, France 3 Occitanie, voilà. Et tu sais si ce film aura ensuite une autre vie ou pas, ou ça reste un film télé, puisque c'est eux qui ont été producteurs, en fait.
C'est ça, ils sont coproducteurs. Après, donc, les films qui sont passés à la télé, c'est vrai que c'est un circuit particulier, la télé, donc ça va moins dans les festivals, mais on va quand même essayer de l'envoyer pour voir s'il peut avoir un écho un peu plus large. Voilà, c'est toujours bien de faire connaître... ce travail-là qui est fondamental et qui est important, quoi, voilà. Donc je sais pas, voilà, il y a beaucoup de concurrence dans le milieu des festivals, donc des fois on envoie les films, c'est un peu des bouteilles à la mer, voilà.
Alors raconte-nous un petit peu donc ce film, comment ça s'est mis en place, comment tu as commencé, combien de temps de travail et enfin entre le moment de l'idée et l'aboutissement qui est demain finalement, donc sur France 3 Occitanie, il y a aussi une soirée à la Cinémathèque, mais on rappelle, ça y est, c'est complet, hein, c'est voilà, voilà. Donc comment ça commence cette aventure pour toi?
Ben, en fait, bon, moi, c'est pas mon premier métier, la réalisation. Donc, j'ai fait des études de médecine. Et puis.
Tu es médecin.
Voilà, c'est ça.
Médecin,
je suis médecin-gynécologue. Ouais. Et j'ai fait un premier film, en fait, quasiment autoproduit. Et puis ensuite, donc, avec ce premier film, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'École supérieure d'audiovisuel à Toulouse, l'ENSAV. Et donc, c'était un projet de fin d'études initialement. Donc, pendant cette année, j'ai pu faire des premiers repérages. Et j'ai contacté l'association Goutte de Vie. Je les ai rencontrés d'abord pour leur expliquer un petit peu mon projet, pourquoi ça m'intéressait, pourquoi ces gestes-là me touchaient beaucoup. Et donc, il y a eu tout un travail, en fait, d'observation, de comprendre, en fait. C'est vrai que c'est assez complexe, en fait, quand on débarque là. En fait, il y a tout un réseau, hein, ça fonctionne en réseau. Il y a beaucoup d'acteurs différents. C'est vraiment un savoir-faire quand même assez complexe, un savoir-faire, un savoir-être. Donc, il a fallu déjà que je comprenne comment tout ça fonctionne, que je me fasse accepter. Que j'assiste moi-même à des célébrations aussi pour comprendre aussi ce que ça représente aussi d'être auprès d'un inconnu, de voir comment ça nous touche aussi, de comprendre la démarche des gens qui vont aussi à ces enterrements. Le travail auprès de la chorale aussi, dont j'ai fait partie. Et ensuite, avec tous ces éléments-là, j'ai pu commencer à écrire un dossier. Maintenant, on ne peut plus faire de films comme ça. Si on veut avoir un financement, il faut produire des dossiers. Et il y a un producteur aussi qui m'a accompagnée. Et donc, avec ces dossiers, on a eu des aides de la région, de Toulouse Métropole et du CNC, Centre National du Cinéma. Et à partir de là, j'ai pu vraiment commencer le tournage officiel, on va dire, avec une équipe. Et voilà, après, c'est pas évident hein, d'aller filmer dans ces moments-là, les enterrements. Donc, c'est pour ça que les repérages aussi, de comprendre comment ça se déroule, ça permettait aussi d'anticiper au niveau d'une mise en scène, on va dire, de savoir où est-ce qu'il faut se positionner, d'anticiper, de savoir comment ça va se passer, pour gêner le moins possible, être le plus discret possible dans ces circonstances-là. Et voilà, la difficulté aussi de convaincre les gens de participer, de témoigner dans ces moments-là de deuil. Donc il y a des proches qui ont vraiment joué le jeu, qui ont voulu faire connaître ce travail et qui ont accepté de témoigner. Donc vraiment, je leur en suis vraiment très, très reconnaissante parce que ce n'est pas des moments faciles pour être filmé. Et voilà. Et puis après, donc, j'ai suivi les différents enterrements, voilà, qui survenaient pendant ma période de tournage. On peut pas filmer tous les enterrements, voilà, il y a des circonstances où ça ne le permet pas. Et donc voilà, donc j'ai filmé à peu près 5 enterrements, et finalement dans le film il y en a 4, voilà. Et après, bah, il y a eu toute la phase de montage où là, il a fallu construire un récit. Voilà, ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'était à la fois de montrer le travail associatif des bénévoles, donc Goutte de Vie et Coquelicot, mais aussi de pouvoir raconter des parcours de vie. Voilà, ça me semblait important de parler voilà, des histoires des gens qui avaient vécu à la rue et de leur rendre hommage. Voilà. Donc ça, c'était très important pour moi et j'ai essayé de trouver cet équilibre-là.
On voit par exemple quand notamment les témoignages autour d'Angèle, hein, qui visiblement était très appréciée. Mmh. Et à contrario, si vous voulez bien, on s'écoute une minute encore d'extrait du film Dans le cœur des vivants. Et justement, où là on parle de la problématique, c'est des gens qui sont à l'hôpital ou à la morgue en fait, hein, c'est ça, à la morgue plutôt.
Oui, c'est ça, la chambre mortuaire à Rangueil, à l'hôpital Rangueil.
Voilà, mmh. Et ben, on écoute cet échange et c'est très édifiant.
C'est
sur
assez
fait.
Bouleversant, ouais.
C'est bouleversant, ouais. Parce que voilà, parfois on ne sait pas qui c'est.
Mais en fait, dans son portefeuille, il n'y avait aucun document qui... Même pas de pièce d'identité, rien du tout.
Aucun document.
Il n'y a pas de recherche d'ADN, ce genre de choses qui peut être fait ou...
On l'a fait.
Ah ouais, et il n'y a rien eu, aucun résultat.
C'est pas comme à la télé. À la télé...
Donc, je sais pas, en fait.
Non, à la télé,
ouais.
Vous prélèvent de l'ADN,
oui.
Ils l'analysent, ils trouvent l'identité parce qu'ils ont toujours quelqu'un qui permet de faire un comparatif.
Oui.
Le seul truc qu'ils oublient, c'est que pour faire le comparatif, il faut savoir à peu près qui est de la famille de ce monsieur.
Ouais, ok.
Et d'accord. Quand vous n'avez aucune identité, vous n'avez
ouais,
aucun moyen de l'identifier, et voilà, vous pouvez avoir de l'ADN.
Mais même pour nous, de ne pas savoir donner un prénom, c'est compliqué. On a une identité tout au long de notre vie, et là, on part, on n'a plus rien, quoi. C'est dommage.
Voilà, c'est un sujet. Là, c'est énorme, cet échange que tu es parvenue à avoir, Marielle.
Donc là, c'est un échange, en fait, entre la responsable, la cadre de santé de la chambre mortuaire de l'hôpital Rangueil et une entreprise de pompes funèbres qui vient faire la levée du corps pour aller l'enterrer. Et effectivement, donc là, c'est un monsieur qui va être enterré sous X. Alors, c'est un cas qui est quand même assez rare. Hein. À Toulouse, Thierry, on a eu 2 cas, je crois, en 2021.
Oui, il faudra peut-être, du reste, donner quelques chiffres, parce que...
Volontiers, c'est peut-être le moment.
Voilà. Les enterrements sous X, c'est quand même plutôt rarissime. Hein, c'est vraiment personne pour lesquelles... On n'a rien pu retrouver entre tous ceux qui se mettent à la recherche de la famille de ces personnes disparues. J'en profite pour dire que le nombre de gens qui meurent véritablement à la rue n'est pas si élevé que ça. Sur Toulouse, depuis que l'association est créée, on organise une 30aine de cérémonies par an, et sur ces 30 personnes pour lesquelles on organise des funérailles, il y en a 3 ou 4 qui sont réellement mortes à la rue. Beaucoup sont mortes à l'hôpital ou vivaient dans de l'hébergement social, parfois très précaire, hein, mais mourant vraiment à la rue, on est autour de ce chiffre-là. Bon, il s'avère que si on élargit au niveau national, on manque de données. Il y a eu une grande enquête faite en 2012, depuis rien. Donc on estime qu'il y a entre 600 et 1500 personnes qui chaque année en France meurent à la rue. Mais ce chiffre, il est à comparer avec les 600 à 620 000 décès annuels qu'il y a en France. Et ce chiffre, il mérite aussi d'être comparé au nombre de personnes qui sont précaires, dans une grande précarité. Il y a en France, sur les chiffres de l'INSEE de 2020, 18,5% de notre population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et à peu près la moitié d'entre eux sont vraiment dans une grande précarité. Ce qui est terrible, c'est aussi de savoir que parmi ceux qui sont dans une grande précarité, il y a entre 45 000 et 50 000 enfants, dont la moitié ont moins de 3 ans. Donc voilà les chiffres dont on dispose.
En France, on parle de la France. Donc oui. 45 000 à combien tu dis ? À 55 000 non.
45 à 55 000 enfants. Qui sont dans des conditions d'hébergement extrêmement précaires, dont un tiers a moins de 3 ans. Donc forcément, ça expose à des problèmes de santé. Là aussi, on entend beaucoup dire de choses sur les dépenses de santé pour ces populations-là. Ce qui est terrible, c'est que le rapport sur la précarité montre que plus de 70% d'entre eux n'ont pas de droit ouvert à la sécurité sociale. Donc, ils sont à risque d'avoir des problèmes de santé et que ces problèmes de santé soient tardivement pris en compte. Donc, on est dans cette réalité-là. On a fait énormément d'efforts. On a quadruplé le nombre de places d'hébergement, mais pour les périodes froides. Et ensuite, si on regarde ce qui se passe au SAMU social, au fameux 115, ben on sait que rien que sur l'agglomération toulousaine, on a une centaine de personnes dans les périodes froides le soir dont on ne sait trop que faire. Donc on est là, dans cette difficulté.
Voilà, là, donc c'est du direct à tout ça, et donc à l'écoute, il y a les personnes qui vont nous présenter leur formation tout de suite après. Alors, c'était important que tu donnes ces chiffres, Thierry, sur la très très grande précarité, les gens qui, notamment les gens, et comme tu dis, donc ce chiffre, enfin il est là, quoi, 55 000 enfants qui vivent dans des conditions indignes, donc c'est les hôtels, c'est tout ça, et aussi, bah avec, donc ça veut dire aussi tout plein de gens qui risquent fort, bah, parfois, de mourir des suites de la rue immédiate, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc,
On peut peut-être dire un mot sur l'espérance de vie, quand même.
Ah, oui,
oui, parce que c'est vrai que voilà, la rue. Ben ça, il y a un personnage qui dit la rue, ça use. Voilà, donc c'est vrai que ça abîme beaucoup, et donc l'espérance de vie à la rue, elle est autour de 20, 30, enfin peut-être donc, de 30 ans de moins que...
Les données dont on dispose sur les gens qui meurent à la rue, au niveau national, c'est autour de 46 ans, mais ce chiffre aurait tendance à augmenter ces dernières années. On assiste à un vieillissement des personnes qui meurent à la rue. À Toulouse, deux années successives, on a eu une personne de plus de 80 ans. C'est quand même impressionnant. Et c'est à comparer avec l'espérance de vie de la population générale, qui en moyenne est au-dessus de 80 ans, à peu près 80 ans pour les hommes et plus de 85 ans pour les femmes. Donc on est très loin de ça. L'année dernière, sur les personnes que nous avons accompagnées sur Toulouse, on était au-dessus de 50 ans. Quand je parle de vieillissement, de la population qui meurt à la rue, ce n'est pas sans lien avec le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde qui est dans une population précaire, ben, il y a beaucoup de personnes âgées, même si malheureusement, le plus gros contingent fait partie des plus jeunes.
C'est pas joujou. On peut dire que Goutte de Vie cherche aussi des bénévoles. Alors
Ben, vous avez compris ce qu'on essaie de faire. On a un engagement important, on a des valeurs importantes, mais il nous importe que cela fasse tache d'huile. Parce que on parle des personnes qui meurent isolées, en ayant l'expérience de la rue, mais des personnes qui meurent isolées, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et ce moment de grande solidarité avec ces personnes-là et de grand respect avec leur histoire, avec leur parcours de vie, nécessite que nous soyons toujours plus nombreux. Et c'est les bras grands ouverts qu'on vous accueillera dans l'association. Et puis si parmi vous, il y en a qui aiment chanter, ils seront encore plus bienvenus, parce que plus on est nombreux pour la chorale, plus la chorale fait des choses qui sont magnifiques.
Voilà qui est dit. Donc, Marielle, ce film, donc on rappelle, il sort voilà, demain soir, ce documentaire, Dans le cœur des vivants, France 3, 23h, c'est ça.
C'est ça.
Et en replay pendant peut-être un petit mois. Voilà. Des projets pour la suite ? pour toi en tant que réalisatrice de trucs sympas?
Ben, là, je suis en train de réfléchir, enfin, de commencer l'écriture d'un projet sur le Bleu Bleu. Donc, voilà, beaucoup de Toulousains connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une buvette en bord de Garonne qui était tenue par Gilbert, voilà, qui est décédé il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Et voilà, dont le lieu a été détruit. Voilà, donc il ne reste plus rien aujourd'hui. Mais voilà, c'était un lieu qui était important pour beaucoup de gens. Et j'aimerais bien, voilà, m'intéresser à la fois à Gilbert et puis, bien sûr, à tout ce que ce lieu a représenté pour les gens qui y allaient. Voilà, donc je vais... d'ici peu de temps, essayer de rencontrer voilà, des habitués, essayer de recueillir des photos, des vidéos, des témoignages. Voilà, donc ça, c'est le travail en cours.
Beau boulot, beau boulot. Je pense que tu auras des pas mal de gens qui auront envie de te parler.
J'espère.
On clôture cette rencontre avec donc Goutte de vie et autour de ce film Dans le cœur des vivants avec une lecture, c'est ça?
C'est ça. Je vous propose de vous lire un petit texte en fait qui m'a été confié par un monsieur qui s'était lié d'amitié avec une personne qui vivait à la rue, pas très loin de chez lui, et donc qui avait assisté aux obsèques de cet ami et qui avait écrit ce texte pour lui rendre hommage. Et je trouve que voilà, c'est un texte qui est très important parce que il exprime bien les liens qui peuvent se tisser entre des citoyens lambda et des personnes voilà qui ont un parcours de rue. Donc voilà, je vais vous lire ce texte. Je me souviens de la première parole que nous avions échangée, de ce bonjour réciproque, preuve d'une attention qui réchauffe nos âmes. Puis, ce fut un café partagé. Au fil des jours, nous discutions, échangions, partagions sur nos vies, notre quotidien, nos bonheurs et nos blessures. Parfois, tu discutais avec d'autres compagnons, tantôt dans ta langue maternelle, le hongrois, tantôt en roumain, langue apprise à l'école dans ta Transylvanie natale. Lorsque tu parlais de ton enfance et ta vie dans ton pays, tu évoquais avec joie les visites aux chevaux dont tu prenais soin. Ton père et ton grand-père t'avaient transmis ce savoir. Cette passion des chevaux, tu l'as aussi partagée avec tes 2 filles. Tu as travaillé avec courage et persévérance. Tour à tour bâtisseur, berger, mécanicien, tu n'as pas ménagé tes efforts pour nourrir ta famille. Si des différends t'ont amené à partir de ton foyer, tu protèges ta famille et tes 2 filles en les mettant à l'abri pour qu'elles poursuivent leur chemin de vie. Commence alors une odyssée, un grand voyage à travers l'Europe, Italie, Allemagne et d'autres pays encore, puis la France. Paris, Bordeaux et enfin Toulouse où tu cherches un peu de repos. J'y ai appris à t'appeler Eutchi, c'est-à-dire petit enfant, ton surnom en famille. Tu me dis que tu es un loupeau solo, un loup solitaire, placé sous la bonne étoile de tes aïeux. Tu m'as appris des valeurs de loyauté, courage, reconnaissance, humilité, générosité. Tu parlais avec ton cœur. Mon ami, ton corps a trouvé le repos, que ton âme nous inspire toutes et tous. Ta présence est inscrite dans ma mémoire. Merci, c'est le plus beau des cadeaux.
Merci Marielle, merci infiniment d'être venue présenter donc ce film Dans le cœur des vivants.
Merci pour votre accueil. Ouais.
Merci Thierry.
Merci aussi.
Voilà, et donc on suivra les aventures de Goutte de vie et voilà, les aventures de ce film aussi.